RCF. Bonjour à tous, Patrice Marcadet au micro de RCF 17 pour Pêcheurs de Perles, Chasseurs de Talents. Je vous rappelle le principe de notre émission, faire connaître et reconnaître des gens de talent, et ce dans tous les domaines, parce que nous avons la conviction qu'un talent caché, c'est un talent gâché pour la collectivité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe Katina, qui est professeure, maître, enseignant, passeur de yoga. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Comment définiriez-vous votre métier? Quel mot choisiriez-vous?
Je considère pas ça comme un métier en fait.
Ah ben voilà, déjà une chose.
C'est plus une vocation, une manière de transmettre quelque chose qui me semble essentiel. Et bon, si ça me fait gagner ma vie, c'est bien. Mais c'est nécessaire. Mais c'est pas l'objectif comme ça peut l'être pour ce qu'on appelle un métier, il me semble. Après, la fonction, c'est enseigner le yoga, c'est transmettre des outils qui sont là pour permettre à chacun de vivre mieux, de mieux se connaître.
Donc c'est un objectif ambitieux, parce que le yoga, c'est un mot maintenant qui est rentré dans la langue courante. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait du yoga, qui fait du yoga, qui fera du yoga. Bon, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Qu'est-ce que vous mettez, vous, Agathe, derrière ce mot?
En fait, le yoga, c'est une philosophie, c'est une compréhension de la vie. Alors, la connaissance qu'en ont la majorité des gens, c'est les postures. Donc c'est une approche très physique qui fait effectivement partie des outils du yoga. En fait, c'est la première marche du yoga. C'est-à-dire que c'est l'étape nécessaire pour avoir un corps en bonne santé et pour pouvoir aller vers les étapes suivantes qui sont la concentration, la méditation.
La méditation étant l'aboutissement de cette démarche.
La méditation, oui, c'est la dernière étape. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout faire absolument dans un ordre précis. Hein. On peut faire des allers-retours et puis... Mais oui, la méditation, c'est la dernière étape du yoga. Oui. C'est l'objectif de toutes les pratiques.
Bien. Alors, voyons, en ce qui vous concerne, vous, Agathe Katina, qui êtes ma perle du jour, comment avez-vous découvert le yoga? Comment en êtes-vous arrivé là?
Alors, ma première expérience du yoga, elle a été assez catastrophique, en fait. J'avais 18 ans, j'étais hyper stressée, et je me suis dit, je vais faire du yoga, ça va me détendre.
Ouais, ça c'est assez courant, ça, comme réflexion.
Et je suis allée dans un premier studio où c'était des tentures indiennes partout, des divinités, de l'encens... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette secte? Ça m'a fait peur, je ne suis pas revenue. Et la deuxième, à la fin de la séance, l'enseignant qui était là nous demande un peu à chacun quels étaient nos ressentis. Et là, on part donc sur un partage des ressentis, des choses très personnelles. Et là aussi, ça m'a fait fuir. Donc, je ne me suis pas remise avant 15 ans. Dans une période aussi où j'étais très tendue. Donc là, j'avais commencé à travailler. Une vie où j'étais tout le temps en train de courir, d'organiser des choses. J'avais des enfants petits. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sortais de ces séances à la fois détendues et,
ça, c'était,
et pleines d'énergie.
C'était la nouvelle expérience.
C'était la nouvelle
après
expérience.
15 ans de.
Voilà.
15 ans de jachère, si je
c'est
puis
ça.
Dire.
C'est ça. Donc c'était autour de vers la trentaine par là.
Ouais.
Et donc sans savoir vraiment comment ça fonctionnait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Et puis bon, les choses ont fait que j'ai pas pu continuer. Et ensuite je suis partie vivre en Inde. Alors Je ne sais pas si je raconte là maintenant. Pourquoi je pars vivre en Inde.
Je ne sais pas, mais est-ce que le yoga était un élément déterminant pour le départ en Inde ou c'était
Absolument pas.
Ah, c'est absolument pas ce qu'on pouvait penser. Donc.
Non, je m'étais en arrivant en Inde, donc pour c'était un projet de vie familiale. En arrivant en Inde, j'ai cherché des cours de tai chi parce que j'avais commencé le tai chi en France et que ça me faisait du bien. Et puis, évidemment, je n'ai pas trouvé. Et à côté de chez moi, il y avait un studio de yoga. Donc, je me suis dit, c'est l'Inde, c'est le pays du yoga. T'as qu'à t'y remettre. Ça t'avait fait du bien. Et donc là, j'ai commencé. J'avais du temps. Donc, j'ai pratiqué tous les jours. Je suis allée tous les jours dans ce studio. Et puis là, il y avait une enseignante qui nous parlait aussi de la philosophie du yoga pendant les cours. Et puis ce qu'elle disait venait toucher quelque chose que j'ai ressenti très fort en arrivant en Inde, qui était que, en arrivant en Inde en famille, j'avais une appréhension. C'est pas forcément facile, ce changement de vie, et puis de se dire qu'on va s'immerger dans une autre culture, etc. J'avais peur. Et en fait, au bout de quelques jours, je me suis fait la réflexion que, dans le fond, on est tous les mêmes, on est tous animés par les mêmes émotions, tous en mouvement pour les mêmes choses. Et c'était exactement ce que me disait la prof de yoga. Donc voilà, ça m'a donné envie d'aller comprendre et approfondir un peu ma connaissance de ce que pouvait apporter le yoga. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que le yoga me permettait d'être dans l'instant présent. Et c'était le fait de ne pas y arriver dans ma vie amenait une souffrance dans mon existence. C'est-à-dire que moi, j'avais passé ma vie jusque-là à courir, à organiser, à planifier, à être toujours projeté dans le futur sans être capable de profiter de ce qui se passe là, maintenant. Et j'avais la conscience que ça générait une souffrance. Et en découvrant le yoga de cette manière-là, un peu plus fine, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. C'est tous les outils pour arriver à profiter de chaque instant, à être là et puis d'en jouir au maximum.
Le yoga permettait d'arrêter le temps un peu, de faire un... ou d'être dans l'instant, dans le moment.
Exactement.
Et de ne pas être dans le regret de ce que l'on n'a pas fait et dans la projection de ce que l'on va faire. Le yoga permettait de profiter de l'instant.
D'être dans la conscience.
D'être dans la conscience.
De tout ce qui se passe.
D'accord.
Ouais, dans cet instant.
Parce qu'avant, vous aviez une vie où ça bougeait beaucoup.
Oui, avant, j'avais une vie où ça bougeait beaucoup. J'étais, pendant 10 ans, j'étais responsable d'un domaine viticole. J'étais œnologue.
Ouais.
C'était beaucoup de responsabilités. C'était toujours organisé, planifié. Et dans le même temps, j'avais des enfants petits. Donc, pareil, une fois rentré à la maison tard, c'était pareil. Donc, c'était une course perpétuelle avec pas de temps pour se poser, pas de temps pour soi non plus. Et puis aussi, l'idée d'avoir une activité professionnelle qui, dans le fond, pour moi, n'avait pas beaucoup de sens. Dans la mesure
faire
où...
Faire pousser la vigne, faire du vin, ça a du sens quand même.
Alors, je me suis débrouillée pour en donner. C'est-à-dire que élaborer du vin, c'était intéressant, mais je n'avais pas l'impression que ça apportait quoi que ce soit à l'humanité. Alors, c'est complètement... C'est pas dans l'humilité du tout ce que je dis là. Hein.
C'est complètement mégalo.
Complètement. Mais je pense que c'est important pour chacun aussi de se dire qu'on a une place dans la société et qu'on apporte sa petite pierre, quoi. Et là, j'avais pas l'impression. Alors, je me suis débrouillée quand même. J'étais déjà très... j'ai toujours été, et c'est pour ça que je suis allée dans la biologie, tout ce qui tourne autour de la vie, et ça m'a amenée à ce métier-là, hein, quand même. Mais je suis allée vers l'agriculture biologique. Donc ça, ça avait un sens.
Ça, ça a du sens.
Ça,
oui.
Ça avait un sens. Et puis, je m'attachais aussi dans les relations avec les salariés qui travaillaient avec moi et dont j'étais responsable, d'avoir une relation la plus humaine possible. Dans la mesure de mes moyens, parce que j'avais jamais fait ça, et donc j'ai rencontré des difficultés, j'ai pas toujours été à la hauteur, peut-être pas toujours respectueuse non plus, mais en tout cas j'essayais de là-dedans de faire pour le mieux, quoi.
Voilà. Ouais, mais ça avait du sens.
Et ça avait du sens.
Oui. Voilà. Oui, oui. Et puis même apporter un peu de plaisir aux gens en leur faisant goûter du vin qui était bon, un peu d'ivresse, ça soulage.
Oui, mais momentanément.
Momentanément. Bon, donc ça, c'était quand même loin, très loin du yoga, encore que on pourrait dire que dans la dégustation du vin, vous avez fait la dégustation de l'instant que vous faites en yoga. On peut dire ça.
C'est vrai que quand on déguste un vin, on est dans l'ouverture complète au sens. Donc on observe le vin, on le sent, on le goûte et on décrit tout ce qu'on ressent. Donc cette approche-là, oui, c'est un peu l'approche de la méditation, en fait, d'être très concentré sur quelque chose, puis d'arriver à mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est une démarche qui est yogi, effectivement. Oui, c'est un parallèle qu'on peut faire.
C'est un parallèle qu'on peut faire et je pense que ça a du sens pour vous. Ça prend en compte votre parcours. Alors, à propos de parcours, je remarque que dans les perles que j'ai interviewées, chaque fois, une des caractéristiques qu'on retrouve toujours, c'est que les gens qui sont perles sont des gens qui ont renoncé à quelque chose, qui ont renoncé à une partie d'eux, qui marchaient bien, qui leur apportaient des satisfactions, et puis qui ont un peu bifurqué, qui sont partis sur autre chose, qui ont pris le risque. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a cette dimension-là, elle est tout à fait évidente. Vous êtes, je ne dirais pas amputé, mais vous avez mis de côté des connaissances, des savoir-faire, des compétences, pour passer à autre chose, pour vous réaliser. Est-ce qu'on peut dire ça ?
J'ai pas l'impression d'avoir renoncé à quelque chose. J'ai mis de côté des choses. J'exclus pas maintenant. Je suis actuellement dans une période où très touchée par évidemment tout ce qui se passe au niveau environnemental, la dégradation de la planète, les risques courent l'humanité et les autres espèces autour de nous. Et je me dis que j'ai tout ce bagage, parce que je suis ingénieure agronome, et tout ce bagage, c'est dommage de peut-être de pas en faire quelque chose. Avec maintenant en plus la vision que m'a apporté le yoga, je me dis pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, mais j'ai l'impression que maintenant ça va pouvoir peut-être déboucher sur une mise en mouvement, et peut-être un investissement auprès d'associations, d'organismes qui œuvrent pour essayer de limiter la casse.
De limiter la casse, c'est bien le mot, oui. Et ce souci-là, il préexistait. Lorsque vous avez décidé de partir en Inde, c'était probablement pour faire un peu une action dans ce sens, non ?
Alors, la motivation au départ pour cette vie en Inde, c'était pour aller à l'origine travailler et faire du bénévolat auprès d'une association dans laquelle je suis investie, à Pondichéry, qui s'appelle Charana, et qui accompagne de manière extraordinaire les enfants et les familles. Et donc, l'idée, c'était de partir pour quelques mois faire du bénévolat là-bas. Et donc, on a monté un projet pour pouvoir partir. Et puis, il s'est trouvé que, finalement, on ne s'est pas retrouvé à Pondichéry du tout, mais à Goa, qui est sur la côte ouest. Et en Inde, tout est très loin. Donc, ça n'a pas du tout été possible de faire du bénévolat pour Charana. Mais il n'empêche que j'ai continué à m'investir pour cette association.
Le souci de changer le monde, de donner du sens à la vie, ça, on peut dire que c'est un fil conducteur.
Oui, voilà, c'était déjà là. Oui, hein? c'était ça qui nous a mis en mouvement.
Ouais. Oui, c'est quelque chose qui vous habite, ça. Et donc, vous envisageriez peut-être d'attaquer un autre projet, de continuer la route. Et si on revient au yoga, qui est votre activité actuelle, quel est votre... J'ai employé un mot grossier, mais je dirais quelle est votre offre par rapport à vos clients. Je remploie un deuxième mot grossier.
Alors,
en quoi vous distinguez-vous de tous vos collègues qui proposent des cours de yoga,
Il y a énormément de types de yoga différents. Il y a beaucoup de techniques différentes. Dans la technique la plus commune et celle que propose la majorité des enseignants de yoga, ça s'appelle le Hatha Yoga, ce sont les postures et la respiration. Donc moi, c'est ce que je propose aussi, avec aussi ce qu'on appelle du Yoga Nidra, qui est une méditation allongée. Mais dans l'approche du Hatha Yoga, ce que je propose, c'est d'aller déjà vers un état de conscience profonde de ce qui se passe, de concentration, et de prendre conscience de la manière dont, à chaque posture, le corps réagit, le corps physique, mais aussi le mental, émotionnellement aussi, comment on réagit aux propositions qui sont faites. Parfois, une proposition, on peut mettre en colère, on peut se sentir découragé, on peut se sentir nul, enfin, il y a plein de choses qui peuvent réagir à l'intérieur à toutes les propositions qu'on fait sur le tapis. Et donc la démarche, c'est d'amener les gens à se concentrer et à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Avec l'idée ensuite, donc c'est ce qu'on appelle le regard intérieur neutre, qui s'appelle le drashta en sanskrit. Et l'idée ensuite, c'est de maintenir dans le quotidien ce drashta en éveil et de se rendre capable d'être à l'écoute de la manière dont le corps réagit par automatisme. Le corps physique et puis surtout le mental, en fait, qui réagit beaucoup par automatisme, uniquement par automatisme. Donc on n'a pas pris conscience de ces automatismes, justement. Et donc l'idée, c'est de gagner petit à petit en libre arbitre, d'être capable de voir venir les réactions et de se dire que peut-être que pour une fois, on peut agir autrement, on peut réagir, plutôt on peut cesser d'être en réaction, de réagir, mais plutôt agir volontairement avec... une dose de liberté, en fait.
Donc, on peut dire que le yoga est un moyen de connaissance de soi. Oui. Soyez d'accord pour dire ça.
Complètement.
Un moyen de connaissance de soi et un moyen de développement personnel.
Oui, tout à fait.
Pour reprendre des concepts utilisés communément.
Oui.
Et vous envisagez le yoga pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées, pour tout le monde, est-ce que vous avez un public privilégié auquel vous aimeriez, d'une façon prioritaire, communiquer ce savoir, cette connaissance, cette expérience?
J'enseigne aux adultes de tous âges, de la post-adolescence jusqu'à... J'ai eu un élève qui avait 89 ans, qui découvrait le yoga, qui était là par curiosité, c'était extraordinaire. Et j'aimerais me sentir capable d'enseigner aux enfants. Et j'aurais aimé pouvoir amener le yoga de manière peut-être plus intense dans la vie de mes propres enfants. Mais je pense qu'il y a des petites graines qui ont été germées, même si pour le moment elles sont plutôt dans le rejet.
Dans la résistance, c'est
dans
normal.
Dans la résistance.
C'est normal. Puisque ça vient de leur mère.
Voilà. Mais je pense que c'est important de... Ce serait important que les enfants aient une approche, une compréhension du yoga qui est... Il ne faut pas que ce soit imposé, il ne faut pas qu'il y ait justement une réaction de rejet. Donc il faut que ce soit très bien fait par des gens qui sont formés pour ça. Voilà. Ça existe, hein, des formations d'enseignants de yoga pour enfants. Ça s'appelle le RI.
Vous en avez fait, ça, de cette
non.
formation
non. non.
C'est une spécialité, le yoga pour enfants.
En fait, il faut adapter la pratique du yoga aux enfants, puisqu'ils ont besoin que ça bouge beaucoup, les enfants. Ils ont besoin que ce soit ludique. Donc, c'est une approche très différente.
Bon, si on revient sur votre pratique du yoga à La Rochelle, donc vous avez une structure, une association.
Oui, une association qui s'appelle l'Arbre Yoga.
Oui.
Aujourd'hui, on est 3 enseignants dans cette association. On s'est formés tous les 3 au même endroit. Et donc, on propose des cours à différents endroits de La Rochelle toute la semaine.
À différents endroits, ça veut dire ?
Il y a des cours au Minimes, à Villeneuve-les-Salines, Vaugoin, Rossignolette, Mireuil, La Palisse.
Ah, vous couvrez le territoire, vous.
Vous
couvrez
oui.
le territoire. Bon, très bien. Et donc, si on veut avoir des renseignements sur vous, il faut aller sur...
Il y a un site, le oui. site larbre-yoga.fr. Voilà, il y a toutes les infos, les horaires, les adresses exactes, le nom des enseignants, il y a un petit descriptif des enseignants.
L'arbre, c'est avec en un seul mot ou avec un apostrophe ?
D'un seul mot.
En un seul mot ?
Oui.
L'arbre-yoga.fr. D'accord. D'accord, donc là, on pourra avoir tous les renseignements.
Toutes les infos.
Bien. Eh bien, Agathe, pour conclure, est-ce que... Vous pourriez me répondre très rapidement, en quelques secondes ou quelques mots, donc je vous ai posé la question sur le yoga et les enfants, le yoga et le stress. Un mot.
C'est un bon moyen pour réduire le stress, le yoga.
Yoga et connaissance de soi, on l'a dit. Yoga et bonheur.
Oui, être dans l'instant présent, c'est décupler, multiplier par 10 l'intensité du bonheur.
Yoga et vieillissement.
Alors, la pratique du yoga, pratique physique du yoga, le hatha yoga, ça entretient le corps, oui. Ça va limiter la vitesse de vieillissement, ralentir.
Yoga et plaisir.
Oui, pareil que pour le bonheur. C'est le plaisir est décuplé quand on est dans la conscience du plaisir. Après, c'est la pratique du yoga, c'est aussi beaucoup de discipline, d'austérité. Et c'est pas que du plaisir. C'est pas que du plaisir non plus de se confronter à ce que l'on est. Parfois, c'est pas très chouette. Voilà, il y a les deux facettes.
Yoga et société.
Si on veut que la société évolue positivement, je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse du yoga.
Bon. Yoga et douleur.
Le yoga permet, aide, je pense, à l'acceptation de nos souffrances.
Yoga et mort.
Pratiquer le yoga, c'est aussi se préparer à la mort. C'est parce que quand on a compris le sens de son existence et qu'on a le sentiment d'avoir apporté sa pierre, je pense qu'il est plus facile de mourir.
Yoga et couple.
Yoga et couple.
Yoga et altérité. C'est dur, hein?
Oui, c'est dur.
C'est dur. Bon, pardon. Pardon. Je vais vous citer pour conclure. Avec le yoga, j'ai compris que le sens de la vie était à chercher ailleurs que dans mon individualité, mais plutôt dans le lien qui nous lie les uns aux autres et à l'univers. Signé Agathe Katina.
Oui.
Est-ce que vous auriez un mot à ajouter à cette phrase forte ?
Ben, je pense que c'est le sens de la spiritualité. La spiritualité, c'est avoir la conscience qu'on est une petite partie d'un grand tout et que tout ce que l'on fait, chacun de nos actes, a une influence sur tout ce qui nous entoure et inversement. tout ce qui se passe autour de nous nous impacte. On est liés, on est tous liés.
Ça, c'est pas une croyance, c'est une expérience, c'est une sensation, vous diriez ? Ou c'est une conviction ?
C'est une sensation très, très furtive pour le moment. J'espère aller vers une sensation qui durerait sur plus qu'une fraction de seconde. Mais c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on est devant un paysage magnifique ou que tout d'un coup on se sent être une partie de quelque chose.
Agathe Katina, je vous remercie beaucoup pour ce moment que j'ai goûté avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. J'espère que nos auditeurs en ont eu autant en vous écoutant.
Merci à vous.
Je rappelle donc qu'on peut retrouver des informations sur votre activité à larbreyoga.fr. Merci Agathe Katina.